Économie et finances. Une chronique de Jean-Louis Chambon sur Canal Académie.
Vous allez en effet retrouver tout de suite Jean-Louis Chambon qui reçoit Olivier Pastret, nominé pour le prix Turgot 2008 pour son ouvrage « Le roman vrai de la crise financière » co-rédigé avec Jean-Marc Sylvestre.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Je reçois aujourd'hui pour cette nouvelle chronique économique et financière le professeur Olivier Pastret. Nous allons parler des effets de la crise financière mondiale sur le secteur bancaire, en particulier en liaison avec la parution de son excellent ouvrage qu'il a écrit donc en duo avec Jean-Marc Sylvestre, Le roman vrai de la crise financière, paru chez Perrin. Bonjour Olivier Pastret.
Bonjour.
Il me semble que vous aimez bien écrire en duo. Est-ce que c'est plus agréable ?
C'est plus compliqué, mais c'est, à mon avis, sur certains sujets, plus efficace parce que on confronte deux regards. Et là, c'était particulièrement frappant puisque Jean-Marc Sylvestre, qui est un chroniqueur télévisuel bien connu, est quand même extrêmement libéral. Et moi, je suis plutôt assez colbertiste. Donc, deux points de vue très différents sur un même sujet, ça donne, j'espère, de la pédagogie.
D'accord, c'est pétillant. Alors, on va y revenir. Je commence quand même par vous présenter, si c'est nécessaire. Vous êtes donc un économiste de grande renommée, vous êtes membre du Cercle des économistes, où vous dirigez d'ailleurs une collection.
Aux éditions Perrin, oui.
Aux éditions Perrin. Vous êtes membre du CAE, vous êtes professeur à l'université de Paris 8.
Saint-Denis, dans le 9-3.
Dans le 9-3. Et vous êtes conseiller scientifique à l'autorité des marchés, l'AMF, ainsi qu'à la revue d'économie financière. Donc vous venez de faire paraître ce livre. Alors vous êtes par ailleurs, je dis ça sous forme de clin d'œil, un lauréat du prix Turgot et un membre d'honneur du Cercle Turgot, dont nous sommes
très
extrêmement
honoré.
Fiers de vous accueillir. Et vous êtes surtout, cher professeur, un grand spécialiste français du secteur bancaire et l'auteur d'ailleurs en 2006 d'un rapport au ministre de l'économie de l'époque sur les enjeux économiques et sociaux de l'industrie bancaire. Donc au fil des pages de cette dernière parution, nous allons revenir et porter des éclairages sur cette crise financière qui n'en finit pas de continuer, si je puis dire, et donc sur les conséquences du secteur bancaire. Alors, ce livre, donc, vous l'avez écrit, vous le disiez tout à l'heure, avec Jean-Marc Sylvestre, qui lui-même, non seulement est journaliste, mais aussi un spécialiste de l'économie, puisqu'il est docteur en économie, diplômé de l'université de Paris-Dauphine. Alors, on en vient directement sur votre ouvrage. Et donc, qu'est-ce que vous dites en résumé sur ce roman vrai de la crise financière ? D'où le mal est-il venu ? C'est un cancer ou pas ?
D'abord, on commence par dire une chose, c'est que il se dit beaucoup de bêtises. Et on a essayé, c'est là où peut-être nos capacités respectives mises en commun sont utiles, on a essayé de balayer toutes les idées fausses qui traînent sur le sujet. Alors, parmi celles-ci, j'en cite quelques-unes, ce n'est pas une crise des subprimes. Les subprimes, c'est un petit marché hypothécaire aux États-Unis qui représente au total 1300 milliards de dollars, ce qui est important, mais à l'échelle de la planète financière, c'est totalement dérisoire. Si ce n'était qu'une crise des subprimes, elle serait évidemment totalement gérée dès à présent. C'est au-delà des subprimes, la crise de ce qu'on appelle la titrisation. Alors juste un mot de technique, c'est de la titrisation, c'est très simple, c'est transformer des crédits. Les crédits sont des contrats entre un débiteur et un créancier, transformer des crédits en SICAV, pour prendre un exemple parlant, donc en produit de marché. À partir du moment où vous faites ça, vous allégez votre bilan quand vous êtes une banque, donc vous pouvez faire beaucoup plus de crédits, mais vous ne savez plus très bien où sont les crédits. Donc ce n'est pas une crise subprime. Deuxième idée fausse, c'est la crise de 29. Alors on a quelques dépressifs notoirement connus en France qui disent, ça y est, c'est la crise de 29. Ça n'a strictement rien à voir pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'en 29, quand le krach boursier est intervenu, il y avait déjà une dépression. Et donc la crise boursière et bancaire a accentué une dépression préexistante alors qu'aujourd'hui on a une économie mondiale en croissance. Et deuxièmement, les banques centrales à l'époque n'ont fait que des bêtises. Aujourd'hui, elles en font quand même significativement moins.
Oui, et donc on a été d'ailleurs impressionné par la coordination intervenue entre la BCE et la Réserve fédérale récemment, alors qu'effectivement, leurs politiques ne sont pas forcément très, très convergentes sur un autre plan.
Non, leurs statuts sont différents, donc ils ont des politiques différentes, mais là, manifestement, ils ont réagi extrêmement vite, extrêmement bien. Là où je suis un tout petit peu plus critique, c'est qu'ils sont un peu aussi responsables de la crise. Et c'est ça qu'on a voulu marquer dans le livre, souligner, je pense que de ce point de vue-là, il est assez original, on ne désigne pas des victimes expiatoires. Il n'y a pas de bouc émissaire dans le livre. On dit, c'est la responsabilité de tout le monde. Les banques ont fait des bêtises, les institutions financières non bancaires ont fait des bêtises, les agences de notation aussi, les organismes de régulation bancaire aussi, les banques centrales aussi. Donc, balayons chacun devant notre porte, mais surtout ne désignons pas l'autre comme étant le responsable de tous nos maux.
Oui. Alors, avec un point qui revient d'actualité, puisque le gouverneur de la BCE, Jean-Claude Trichet, est intervenu récemment dans les médias pour dire que, de son point de vue, les ratios prudentiels, en quelque sorte, les fameuses normes IFRS, etc., avaient donc des conséquences procycliques qui avaient tendance plutôt à amplifier, on va dire, les conséquences de la crise que plutôt que de la lisser. Alors, je ne sais pas quel est votre sentiment sur ce sujet. Je crois que vous êtes un petit peu dans cet axe.
Oui, je me réjouis que certains hauts dignitaires de la planète finance découvrent ce qu'on était très peu nombreux, mais on était quand même quelques-uns à mettre en lumière déjà depuis 3 ou 4 ans. Il faut bien voir que la banque est soumise à ce que moi j'appelle un tsunami réglementaire, c'est-à-dire une vague réglementaire très 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 forte, comme l'ont connu les technologies de l'information et les télécommunications il y a quelques années. Et donc, les règles du jeu bancaire sont en train de changer. Les nouvelles règles du jeu sont extrêmement procycliques, c'est-à-dire elles améliorent la situation quand ça va bien et quand ça va mal, elles la détériorent. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'une des réformes qui est incontournable, et je me réjouis que certains maintenant le disent parmi les autorités de régulation, que ces normes soient remises à plat. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce qui est aussi un risque de la période. C'est qu'on dit, c'est une crise grave, donc il faut surréguler, re-réguler. Je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine-là, mais au moins il faut mettre les choses à plat et tout ce qui est apparu comme étant un problème, et bien il faut essayer de le résoudre.
Vous faites quand même plutôt partie des économistes qui considèrent que cette crise n'est pas la reproduction de la crise des années 30 et que donc, bien entendu, elle va avoir des effets, mais que par contre, finalement, les choses devraient plus ou moins rentrer dans l'ordre et que finalement, le secteur bancaire devrait se ressaisir. Alors, l'actualité ne dit pas exactement ça.
Non, moi je suis optimiste quand je suis face à un pessimiste et pessimiste quand je suis face à un optimiste. Parce que je pense qu'il est très important pour l'avenir de l'économie mondiale qu'on fasse des réformes sans tout balayer d'un revers de main de ce qui a été fait dans le passé. Dans ce domaine, je considère que la crise est quand même très grave et il faut être extrêmement modeste dans la mesure, et on le décrit avec précision dans le livre, dans la mesure où ce qui peut arriver, qui n'est pas encore arrivé, est ce qu'on appelle un credit crunch. Alors c'est un terme anglo-saxon, je m'en excuse. Ça veut dire un resserrement très fort des mécanismes de crédit. Et ça, ça peut peser sur l'économie réelle. Tant que ça reste une crise bancaire, c'est gérable. Il y en a eu, il y en a, il y en aura. On a eu LTCM, on a eu les savings and loans, on a eu les banques japonaises. Tant que c'est resté cantonné à l'économie bancaire ou à l'économie financière, il y a eu moyen de trouver une solution. Quand ça pollue l'économie réelle, quand les difficultés des banques ont un impact sur leur activité de crédit et donc sur le financement de l'économie, là, c'est une situation beaucoup plus grave. Et je pense qu'on est dans cette situation-là, même si on ne peut pas dire qu'aujourd'hui encore, la situation économique mondiale soit extrêmement négative, mais regardez les prévisions du Fonds monétaire international, le FMI, que dirige maintenant Dominique Strauss-Kahn. Ils sont passés pour la croissance 2008 de l'économie mondiale de 5,2% à 3,7%.
Oui, donc c'est
quand
même
une baisse déjà significative.
D'accord. Donc cela étant, on est quand même toujours dans une croissance moyenne, ce qui est quand même le scénario du pire n'est quand même pas entré dans les prévisions. Mais cela étant, c'est un recul sensible.
Je vais faire de la provocation. Si le FMI, qui travaille très sérieusement, a changé ses prévisions en passant de 5,2 à 3,7 en 6 mois, peut-être que dans 6 mois, ils passeront de 3,7 à 2,3. À ce moment-là, comme malgré tout les pays émergents, c'est-à-dire les Brésil, Russie, Inde et Chine, continueront à avoir une croissance relativement forte, ça veut dire que on sera en vraie récession aux États-Unis.
Tout à fait.
Et on risque de l'être en Europe.
Alors vous dites néanmoins, à la page 234 de votre ouvrage, banque, deux points, la revanche des briques. Il est probable que les temps qui viennent imposeront le premier test tangible pour un changement du modèle économique bancaire.
Oui, absolument. Les banques ont été poussées par leurs autorités de régulation à transformer, comme je l'expliquais tout à l'heure, les risques en produits de marché et donc à se défausser de leurs risques. L'effet inverse va se produire aujourd'hui, c'est-à-dire que les autorités de régulation, pour mieux contrôler le système bancaire, vont leur demander de remettre dans leur bilan des crédits qu'ils avaient auparavant transmis au marché. Ça va forcément avoir un impact, je reviens sur ce que je disais sur le credit crunch, ça va forcément avoir un impact sur la capacité de prêt des banques et sur leur, pardon encore une fois de l'anglicisme, leur business model, leur organisation industrielle qui va nécessairement changer. Et la revanche des briques, c'est BRIQES, hein, c'est la revanche des agences. On se rend compte, je prends juste un exemple, Northern Rock, la banque anglaise qui a failli déposer son bilan et que le gouvernement très libéral anglais a nationalisé. Il faut quand même voir que les autorités de régulation sont extrêmement inquiètes. Cette banque n'a failli disparaître que pour une raison, c'est qu'elle n'avait pas de dépôt. Et donc, comme elle était, pour se financer, obligée d'aller sur le marché monétaire,
oui,
quand le marché monétaire se ferme, il n'y a
plus de moyens de se refinancer. Alors, autre conséquence indirecte de cette situation, sur un secteur qui lui-même, en termes de croissance, pèse pour beaucoup, c'est le secteur immobilier. Tout ceci, c'est vous qui m'y faites penser. En parlant de credit crunch, on commence à entendre ici ou là des emprunteurs qui se plaignent que les banques sont devenues extrêmement frileuses. Alors, le secteur immobilier, on sait ce qui s'en est passé en Amérique, et vous dites fort justement dans votre ouvrage à la page 243 qu'il y a aussi derrière ces problèmes économiques des problèmes humains considérables. Et donc, d'ailleurs, c'est présenté sur une forme extrêmement agréable à lire. Ce secteur immobilier, bon, en Amérique, on a compris que les modes d'approche étaient susceptibles de pénaliser fortement le secteur. Il en est quoi en Europe? Il semble que le sujet de la baisse des prix soit un peu tabou. Personne semble vouloir le dire. On dit oui, ça baisse un peu ici, mais pas trop là-bas.
Juste un fait après une analyse. Le fait, on a annoncé il y a 10 jours que les prix de l'immobilier, les volumes de l'immobilier neuf en France avaient baissé de 30%. On aurait annoncé ça il y a un an. Les gens auraient dit c'est la crise mondiale. Donc,
ils n'étaient pas parés.
Il y a quand même des éléments qui sont un peu inquiétants. Mais dans ce domaine, il faut radicalement faire la différence entre les États-Unis où les banques ont fait n'importe quoi. On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans les détails de la régulation.
Sans doute, peut-être un point sur lequel vous pouvez insister, c'est le fait d'utiliser des intermédiaires, c'est-à-dire des
prescripteurs. Oui, ils ont confié à des courtiers en crédit qui, eux, touchaient une commission sans même analyser le risque des opérations. Et on raconte en détail l'histoire de Rosa au début du livre, qui a emprunté 400 000 $ avec un revenu annuel de 20 000 $. C'est forcément catastrophique, c'est pas possible. Bon. Donc, la situation américaine est très particulière et la crise donc va être aux États-Unis grave. En Europe, ça dépend un peu de, je vais dire, l'hystérie des industries bancaires. Il est clair qu'en Angleterre et en Espagne, il y a des excès qui ont été commis et que dans ce domaine-là, les banques françaises ont été relativement prudentes. Alors, je pense qu'il va y avoir un tassement de l'immobilier en France, mais pas un éclatement de bulle pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas véritablement de bulle immobilière en France aujourd'hui.
Et peut-être que la pratique majoritaire des banques françaises du taux fixe est une façon aussi, par anticipation, d'avoir préservé, on va dire, les emprunteurs d'une double problématique qui est celle à la fois de voir leur taux d'intérêt monter lorsque le marché se tend et par ailleurs de subir les conséquences on va dire, du pouvoir d'achat, etc.
Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est là où ce qui paraît très technique, comme la différence entre taux fixe et taux variable, ça paraît très abstrait. En fait, c'est très concret. Et je recommande à tous vos auditeurs de bien lire les notices qu'on leur remet, parce que ça a souvent des conséquences. Je prends un autre exemple dans un autre registre, qu'on a appelé les SICAV monétaires dynamiques.
Oui, absolument.
Quand on dit à un client de banque française, Sicca monétaire, ça veut dire
tranquillité.
Pas de risque.
C'est ça, sécurité
non-risque.
Absolue.
Bon. Il se trouve que là, elles étaient dynamiques. Elles étaient tellement dynamiques qu'elles étaient avec un taux de subprime très important. Et donc, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Alors, quand c'est un investisseur avisé comme une compagnie d'assurance, on peut ne pas éclater en sanglots. Mais il y a beaucoup de particuliers qui ont souscrit à ce type de produit. Donc, une des difficultés de la période actuelle, c'est qu'on a une sophistication financière de plus en plus grande, ce qui va obliger... Et ça fait partie du nouveau modèle bancaire qu'il va falloir définir. Ça oblige les banques à ce qu'on appelle le devoir de conseil, c'est-à-dire de bien calibrer les produits pour des clientèles qui n'ont pas les mêmes compétences en matière financière. Et là, il faut qu'elles soient très prudentes.
Oui. C'est sûr que la responsabilité professionnelle des banquiers est sous la pression de l'opinion.
À juste titre. Et il faut dire encore que dans ce domaine-là, les banques françaises ont été plutôt parmi les plus prudentes.
Oui, les plus sages. Alors, voilà, donc on voit à peu près donc ce qu'est la réalité de cette crise financière mondiale. Certains imaginaient une sortie de crise, on va dire, à partir du second semestre. On est peu à penser que ce scénario soit encore plausible. Il faut s'inscrire dans une certaine durée. C'est votre avis ou...
Non, ça c'est de la foutaise.
C'est de la foutaise, c'est impossible.
Ouais. Encore une fois, ce n'est pas la crise de 29, mais c'est une crise grave. Et aujourd'hui, l'équilibre, je vais être aussi simple que possible pour préfigurer l'équilibre financier mondial. Aujourd'hui, c'est les paysans chinois qui, par leur épargne accumulée, achètent des bons du trésor américain et donc permettent le financement des retraités californiens. Il y a un lien direct entre les paysans chinois et les retraités californiens. Tout ceci avec une baisse relativement progressive du dollar. Si on n'a plus cet équilibre, et je réponds directement à votre question sur l'avenir, à ce moment-là, on peut être extrêmement inquiet. Donc l'avenir de la planète, au-delà de la planète financière, de la planète dans son ensemble, dépend de la capacité des pays émergents, donc encore une fois Brésil, Russie, Inde et Chine, à tirer la croissance mondiale. Je ne l'exclus pas, mais il faut être extrêmement prudent. Et là aussi, il faut qu'il y ait des réformes rapides et significatives, notamment pour associer ces pays à la régulation mondiale. Aujourd'hui, c'est les pays qui créent le plus d'emplois, le plus de richesses, et elles ne participent pas au G7, qui est le groupe des grands 7 pays développés. Elles participent qu'à la marge au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. On marche sur la tête. Il faut leur ouvrir la porte et gérer avec eux une crise qui est quand même une crise assez grave.
D'autant que leur modèle intègre peu les contraintes de responsabilité sociale et de développement durable. Donc c'est un petit peu contradictoire.
Comme c'est bien dit.
je veux dire que c'est là où justement où je vous suis parfaitement lorsque vous dites qu'il faudrait mieux les intégrer dans cette gouvernance mondiale dont on va pouvoir peut-être dire un mot, parce que c'est peut-être la meilleure façon de leur faire gérer ces deux aspects contradictoires qui sont d'un côté, bah écoutez, il faut que vous participiez donc pour tirer la croissance mondiale. Et puis par ailleurs, il faut que vous soyez, on va dire, plus respectueux que nous l'avons été précédemment dans la maîtrise de ce développement.
Aujourd'hui, c'est le Sud qui finance le Nord. Il faut tenir compte de cet aspect des choses. On a dit aux Chinois, pour prendre un exemple, mais c'était vrai aussi en Inde et dans d'autres pays, faites-nous des t-shirts pas chers. Et surtout, vous ne polluez pas. Et c'est nous qui fixons les règles. Et si vous êtes très sage, vous aurez votre mot à dire de temps en temps. C'est pas tenable. Je parle de manière simple pour que les gens voient bien que si on mettait ça dans la vie réelle, ça serait une situation qui est intenable. Donc aujourd'hui, il faut tenir compte du fait qu'on est tous interdépendants. La mondialisation, elle existe. Et qu'étant interdépendants, il faut faire une place à la table des négociations à tous ceux qui... peuvent aider à gérer la crise. Mais très honnêtement, je dis ça, je suis moyennement optimiste compte tenu du fait que les politiques dans la plupart des pays, et peut-être que les États-Unis sont une exception, peut-être, les politiques ont plutôt tendance à dire « circuler, il n'y a rien à voir, la crise est derrière nous, et nous avons absolument tout maîtrisé ». Ça me paraît irresponsable. Je ne pense pas que la méthode Coué marche à l'échelle de la planète économique dans son ensemble. Je pense qu'il faut affronter les difficultés. Ça ne veut pas dire faire des déclarations catastrophistes, parce que ça ne sert à rien, mais au moins voir quelles sont les mesures, et on en propose 12 très précisément dans le livre, 12 réformes.
Dans les principales.
Il y en a justement, il y en a pas
tout
principal.
Tout se tient.
Il faut en faire au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, donc des industries, et aussi au niveau macroéconomique. Au niveau des entreprises, il est clair que pour prendre l'exemple des banques, le cas de la Société Générale l'a bien montré. Il y a quand même des modalités de contrôle interne qui doivent être révisées et qui doivent être réformées. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi voir tous les métiers de la chaîne économique dans le domaine de la finance, c'est-à-dire le rôle des agences de notation, le rôle des autorités de régulation, et à partir de là, on aura une chance de faire quelque chose. Tout ceci dans un cadre macroéconomique, c'est-à-dire voyant bien qu'il faut réformer le FMI, il faut redéfinir son rôle, il faut probablement supprimer le G7. Et vous parliez tout à l'heure d'un aspect qui peut paraître technique à vos auditeurs, mais qui est extrêmement concret, c'est comme les taux fixes et les taux variables, les normes comptables et les normes prudentielles, ce qu'on appelle Bâle 2, sont extrêmement procycliques et donc doivent elles aussi être réformées. Si on prend tout ça, ça fait déjà toute une série de réformes. Et vous voyez bien qu'on ne désigne pas, comme le font certains, ou les méchants de banque ou les idiots de banquiers centraux comme étant les seuls coupables.
Oui, d'accord. Donc, effectivement, c'est un ensemble, mais qui tourne quand même autour d'une grande idée, me semble-t-il, c'est de remettre les hommes au sein du dispositif afin de créer, on va dire, une gouvernance, entre guillemets, de bon sens mondial.
Bien sûr.
C'est-à-dire retrouver le bon sens, en quelque sorte.
Bien sûr. Il faut que tout le monde se convainque que l'avenir de l'économie mondiale passe par le développement des pays émergents. Et dans le système économique actuel, les paysans chinois, ils sont maltraités, c'est vrai, mais ils ont quand même connu un enrichissement historique dans l'histoire de la Chine depuis plusieurs siècles. Et donc, il faut tenir compte de toutes ces dimensions qui ne sont pas toutes roses, sans donner de coloration politique à ce terme, toutes optimistes, parce qu'il y a des inégalités, parce qu'il y a des injustices, parce qu'il y a des délocalisations, parce qu'il y a toute une série de coûts sociaux de cette adaptation. Mais globalement, si on arrive à remettre la planète économique sur les rails, un taux de croissance de 5% par an pendant une dizaine d'années, ça crée de la richesse.
Ça permet aussi de mieux la répartir.
Absolument.
Et de lutter contre... Alors on peut peut-être dire, pour terminer, deux mots sur des grands sujets d'actualité, mais qui vont probablement structurer la politique économique pendant longtemps. Premièrement, cet aspect du retour de la faim à travers la réfaction des matières premières et la concurrence, semble-t-il, entre les matières premières, on va dire, à usage alimentaire et à usage énergétique. Bon, ça nous a rattrapé.
Tenez, juste un chiffre pour les auditeurs. En 2050, on sera 9 milliards. Donc, ça pose un problème. C'est normal que le prix des matières premières agricoles augmente. On a été dans une économie en forte croissance. C'est normal que le prix du pétrole augmente. Il ne faut pas s'attendre à une baisse du prix du pétrole. Elle n'a aucune raison d'être. Il y a des scénarios, on est aujourd'hui autour de 140 $, il y a des scénarios à 300 $ le baril pour 2020-2025. Donc, il faut que le monde prenne conscience de cette rareté et la gère. Et elle est parfaitement gérable. Je ne crois pas qu'il faille opposer les biocarburants.
Il y a de la place pour tout le monde.
Il y a de la place pour tout le monde si on régule un peu tout ça. C'est le retour de l'État, non pas l'État pieuvre qui régimente tout, mais un État qu'on peut appeler stratège qui essaie de coordonner la montée en régime des différentes sources d'énergie, qui régule mieux les productions agricoles. Je suis assez optimiste, mais encore une fois, si on prend conscience de la gravité de la situation.
D'accord. Mais il y a probablement aussi de la place pour des gains de productivité dans la production agricole, encore mondiale.
Enfin, oui, bien sûr. Non, mais attendez.
Donc, il y a quand même des solutions.
Là-dessus, où on considère qu'il y a des sujets tabous et on n'y arrivera pas.
Ou on met tout sur la table.
Je prends l'exemple des OGM. Je veux dire, il y a sûrement des risques, ne vise pas à minimiser les risques. Je dis simplement, il y a aussi un potentiel extraordinaire, donc il faut examiner ça le plus attentivement possible. Et si on ne le fait pas, c'est les Brésiliens qui le feront. Donc là aussi, ça mérite quand même un moment de réflexion et un peu plus de régulation.
Alors, pour terminer et pour revenir donc sur votre ouvrage, dernière question.
Mais ça, c'est aussi dans l'ouvrage.
Absolument. Mais pour revenir plutôt sur la question des banques, je voudrais vous demander si vous voyez une restructuration, des consolidations, on va dire, de l'industrie bancaire arriver rapidement. Et est-ce que vous pensez que les banques françaises, globalement, on va dire, puisqu'on n'est pas là pour mettre le doigt sur Pierre-Paul ou Jacques, sont plutôt bien placés pour tirer leur épingle du jeu. Enfin, c'est un peu mon impression, mais je ne sais pas si...
Recomposition, sûrement. Si vous regardez la hiérarchie des banques mondiales, tous les 10 ans, elles changent.
Absolument.
De manière significative. Donc, elles sont en train de changer et elles vont continuer à changer. Là-dessus, il n'y a pas l'ombre de l'atome d'un doute à avoir. Est-ce que les banques françaises sont bien placées? Elles sont dans la moyenne, très honorablement dans la moyenne. Ce sont des belles entreprises, prises là aussi collectivement, avec une bonne rentabilité, une fidélité de leur clientèle qui est assez bonne, une capacité de se développer à l'international qui est assez bonne. Donc je pense qu'elles peuvent tout à fait être parmi celles qui participent à cette recomposition. Mais rien n'est acquis dans une période de crise. Je rappelle que Citigroup, qui est la première banque mondiale, a perdu 100 milliards de dollars de capitalisation en un an. 100 milliards de dollars, ouais, c'est-à-dire deux fois la capitalisation de la Société Générale en perte de capital. Donc, les rentes, ça n'existe plus.
Oui, absolument, ça n'existe plus. Donc, vous confirmez plutôt quand même que les banques françaises sont plutôt bien.
L'industrie bancaire française, pour encore une fois, pas personnaliser cette industrie bancaire française, est
parmi celles qui a été la plus sage, on va dire, en plus.
Elle a été relativement sage et relativement prudente.
Bien, écoutez, monsieur le professeur, il me vient maintenant le devoir de vous remercier une nouvelle fois pour cet très agréable entretien. Je rappelle donc votre dernière publication, et je suppose qu'il y en a d'autres déjà dans les tuyaux. Olivier Pastret et Jean-Marc Sylvestre, le vrai roman de la crise financière chez Perrin, 300 pages, 19 euros, et donc une grande leçon avec le professeur Olivier Pastret d'un optimisme modéré, mais une grande leçon aussi de réalisme. Monsieur le professeur, merci encore, c'était très agréable.
Merci à vous.
À très bientôt.